Loire FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Chaque année, presque partout dans le monde, les couples fêtent l'amour à la Saint-Valentin. Comme tous les ans, Phare FM Lyon Dauphiné veut aussi mettre l'amour à l'honneur lors de cette semaine spéciale avec une thématique fil rouge. C'est quoi l'amour ? Vaste question que nous avons décidé de poser à Damien Anus, co-responsable avec son épouse du mouvement Cana France. Bonjour.
Bonjour Anaïs.
Alors d'après Larousse, l'amour se définit comme un sentiment très intense, un attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition ? Est-ce que l'amour, c'est un sentiment comme ça ?
Moi, je trouve que c'est une belle définition. Et c'est vrai, derrière ce que je viens d'entendre, il y a cette idée de sentiment, de désir. Et je pense que c'est souvent ce qui est un peu à la base de l'amour humain entre un homme et une femme qui ont envie de construire quelque chose. Et c'est vrai qu'on parle souvent du coup de foudre et c'est ce qu'on peut ressentir quand on a le coup de foudre pour quelqu'un. Moi, j'aurais envie d'ajouter que dans l'amour, il me semble qu'il y a aussi l'engagement, la volonté de l'un et de l'autre. Parce qu'on sait bien que l'amour-passion, ça peut durer, mais ça peut aussi passer. Et donc je crois que quand on souhaite construire sur le roc ou quand on souhaite durer en couple, il y a la nécessité à la fois de ressentir ce désir pour l'autre et en même temps de s'engager pleinement, d'engager pleinement sa volonté.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment ça se manifeste, engager pleinement sa volonté ?
Engager pleinement sa volonté, pour moi, ça veut dire croire que je choisis d'être avec, moi en l'occurrence avec Isabelle, je choisis d'être avec Isabelle, bien que parfois il y ait certaines attitudes qui puissent me déplaire ou des réactions qui me déplacent ou qui me dérangent un petit peu, mais moi j'ai choisi de vivre ma vie avec elle et donc ce choix je l'ai posé librement, je l'ai réfléchi, nous on l'a pensé à deux et j'ai envie d'aller au bout de ce choix et pas de me laisser balader par des passions qui pourraient être un petit peu fugaces. Moi j'ai envie de vivre un amour libre et engagé.
C'est quoi là où les différences entre l'amour et la passion ? C'est deux termes qui sont synonymes, qui se complètent ?
Synonymes, qui se complètent, qui par certains moments peuvent dire la même chose, mais qui par d'autres peuvent être, je pense, assez différents. Moi, j'ai le sentiment qu'un amour complet ou un amour intégral va intégrer la passion, mais en même temps, oui, je pense qu'il y a encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, le désir. Je pense que le désir d'amour, c'est vraiment quelque chose à la base de la relation. Parfois, on rencontre, nous, dans le cadre de notre mission, parfois, on rencontre des jeunes qui se posent la question du mariage et qui se disent moi j'ai rencontré telle personne et on a envie de partager des valeurs. Moi j'ai le sentiment l'union de deux personnes ou un mariage à deux, c'est pas d'abord le fait de vouloir partager des valeurs, c'est d'abord le désir que j'ai d'être avec l'autre parce que je ressens quelque chose de l'ordre de l'éros et j'ai envie de partager ça. Donc cette passion elle est nécessaire, mais encore une fois parfois la passion elle pourrait nous pousser à faire des choses qui sont pas forcément en lien avec le choix, et c'est là où je reviens sur l'engagement. Moi, si je suis marié avec Isabelle, je peux très bien croiser dans la rue une femme qui va m'attirer et me dire waouh, j'ai du désir, j'ai de la passion pour elle, mais en même temps, je vais pas aller vers la première femme qui me plaît dans la rue parce que j'ai envie de respecter cet engagement que j'ai pris vis-à-vis de mon épouse. C'est peut-être ce qui fait la différence entre un mariage chrétien et un mariage qui ne serait pas chrétien, je sais pas. En tout cas pour nous qui sommes chrétiens, cette dimension de l'engagement, l'engagement à deux et même de l'engagement à trois avec Dieu est clairement fondamentale parce qu'on sent bien que c'est sur le roc qu'est Dieu, c'est sur le roc qu'est Jésus qu'on peut construire son mariage dans la durée.
Quels sont-ils justement ces piliers ? On vient de parler du coup de Jésus, de Dieu, pour une relation épanouie et j'ai envie de dire épanouissante aussi.
Quand vous dites pilier, alors moi qui suis catholique, je pense tout de suite aux quatre piliers du mariage chrétien qu'on envisage dans le cadre du sacrement. Je pense qu'on peut se le redire. Pour moi, ce qui va faire la force d'un mariage chrétien, ça va être la liberté. C'est-à-dire je suis libre de m'engager dans cette union. Je ne me marie pas parce que mes parents ont choisi de me marier avec telle ou telle personne. Ça paraît évident aujourd'hui, mais je pense que c'est bon de le redire. Est-ce que je suis vraiment libre quand je choisis telle ou telle personne ? Donc la liberté, c'est pour nous l'indissolubilité, c'est-à-dire que nous croyons, c'est un peu un mystère, mais nous croyons que ce mariage, ce lien du mariage, cette alliance que l'homme et la femme nouent entre eux, c'est comme l'alliance de Dieu avec son peuple et ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le séparer. Donc c'est quelque chose qui peut poser question, mais qui en même temps est quelque chose à accueillir. La fécondité. Je pense que c'est important de dire que la fécondité, c'est beaucoup plus grand que la fertilité. Parfois, on imagine que la fécondité, c'est le fait d'accueillir des enfants. Nous, à Cana, on organise des week-ends pour les couples en espérance d'enfants. Et moi, je suis frappé de voir que quand un couple a du mal ou ne peut pas, pour une raison ou un autre, un problème d'infertilité, ne peut pas accueillir un enfant, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Est-ce qu'on est condamné? Est-ce qu'on n'est pas fécond parce qu'on n'a pas d'enfant? Je pense qu'il faut faire attention à ne pas réduire la fécondité à la fertilité. Donc pour moi, la fécondité, c'est bien plus large. C'est le fait d'être ouvert à la vie dans notre couple, mais aussi au-delà du couple. Parce qu'on peut très bien ne pas avoir d'enfants, on peut très bien être un couple de personnes âgées qui n'a plus d'enfants et qui pour autant garde une forme de fécondité. Et puis le quatrième pilier du mariage, la fidélité. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. La fidélité à l'autre, rester fidèle à son choix, rester fidèle à l'engagement que je vais avoir envers mon épouse.
Est-ce qu'on peut apprendre à aimer quelqu'un ?
Oui, moi je pense qu'effectivement, aimer ça s'apprend. Nous, on a maintenant pour habitude de dire que Cana, c'est une école pour le couple et la famille. Alors ça peut paraître un petit peu scolaire, un peu enfantin, mais pour autant, je crois vraiment qu'on peut apprendre à aimer. On passe souvent beaucoup d'années à se former pour un job ou pour un boulot. Et je crois que la vie de couple, ça peut s'apprendre aussi parce que on a tous notre culture, notre héritage familial, on reçoit énormément de la part de nos parents. Mais cette union qu'on scelle avec l'autre, ben, parfois il nous déplace et dans beaucoup de domaines, dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'intimité conjugale, dans le domaine de l'écoute, dans le domaine de la relation à l'autre, la relation à ma famille, à ma belle famille, la relation aux enfants, il y a énormément de domaines dans lesquels on a besoin de se former, alors pas forcément avec un diplôme universitaire, mais être à l'écoute déjà l'un de l'autre, parce que je crois que dans le cadre du mariage, ben, mon conjoint, c'est sans doute celui qui peut déjà m'apprendre beaucoup, mais aussi, pourquoi pas, des frères et sœurs, si on est dans une communauté d'église, dans une communauté de chrétiens, on a beaucoup aussi à recevoir pour apprendre à aimer. Et pour que ce mariage se construise et soit le plus beau et le plus fécond possible.
On le disait, vous êtes responsable avec votre épouse de Cana France. Cana, c'est une mission de la communauté du Chemin Neuf à destination des couples et des familles, vous l'avez dit, pour aider à aimer mieux. Il y a plusieurs mouvements chrétiens de soutien aux couples, différentes confessions. Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin d'être aidé? Finalement, aimer, c'est pas naturel, c'est pas facile.
Si, je crois qu'il y a quelque chose de naturel dans l'amour, mais j'ai le sentiment que parfois la vie à deux a quelque chose pas de contre-naturel, parce que je pense que la nature de l'homme, c'est pas de rester seul, mais parfois être à deux, ça veut dire refuser une certaine forme d'égoïsme, une certaine forme de repli sur soi. Être à deux, ça veut dire une forme de don de soi. Et je crois que dans le don, il y a quelque chose de la joie. Je crois que la joie, c'est ce qui reste quand on a tout donné, pour reprendre une phrase célèbre. Mais le don, ça va pas forcément de soi, parce que ça veut dire lutter contre le repli sur soi, je le disais, l'égoïsme, etc. Et donc, ben voilà, je pense que l'homme ou la femme est toujours tiraillé entre le besoin d'être pour soi et le besoin de se donner à l'autre. Et donc le don, ben, ça se travaille, ça se cultive, ça se ménage, ça se fortifie, ça s'apprend. Donc je crois que effectivement l'Église, les chrétiens proposent beaucoup de mouvements, de lieux pour prendre du temps pour son couple. Et je pense que c'est une chance pour le monde que d'avoir des chrétiens qui puissent proposer ce genre de lieux. Dans le monde laïque, il y a assez peu de propositions pour prendre soin, même si c'est vrai que dans certaines villes, même à Lyon, il peut y avoir des propositions de préparation au mariage civil pour prendre soin de son couple. Et je pense que c'est vraiment important, parce que qu'on soit chrétien ou pas, ben voilà, le couple, la famille, c'est vraiment la cellule de base de la société, c'est ce vers quoi on se tourne quand ça va pas bien, quand on a un problème. Et donc prendre soin de son couple, prendre soin de la famille, ben, ça relève presque d'un acte citoyen.
Ma question était comment aimer sans dépendre de l'autre, et finalement, est-ce que c'est pas naturel qu'il y ait une forme de dépendance dans l'amour, de dépendance à l'autre ?
Oui, ça peut faire peur parce que derrière dépendance, voilà, il y a plein de notions qui sont attachées, mais je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de bon dans la dépendance. Je crois que ce qui est bon dans l'amour entre un homme et une femme, dans le cadre du mariage ou pas, mais c'est que finalement, je me rends compte que moi, je me suffis pas à moi-même, et que dans l'altérité, dans la différence entre l'homme et la femme, eh bien, moi, je ne suis pas comme mon épouse, elle n'est pas comme moi, et on est complémentaires, mais parce qu'il y a cette autre, parce qu'il y a cette différence, je ne peux pas me suffire à moi-même. Donc, je suis dépendant de mon épouse dans le cadre du mariage pour percevoir quelque chose de plus grand que moi. Et puis, la dépendance dans l'amour, ça me rappelle aussi la dépendance à l'amour de Dieu, tout simplement. Et je crois qu'il y a quelque chose de bon à être dépendant de Dieu dans l'amour, parce que c'est lui qui nous apprend à aimer comme il faudrait pouvoir aimer, avec nos limites, avec nos pauvretés, avec nos faiblesses. Donc dans la dépendance de la relation, oui, il y a quelque chose qui peut nous inquiéter, mais en même temps, sur le fond, il y a quelque chose de bon à être dépendant dans l'amour.
La Bible nous dit que Dieu est amour. Comme on est façonné à l'image de Dieu, ça veut dire que l'amour fait partie de nous. C'est plus qu'un besoin, c'est une constituante de qui nous sommes en tant qu'hommes et femmes.
Je crois que c'est effectivement une constituante et je crois que c'est aussi notre appel profond, notre vocation de tout homme à aimer, à s'aimer d'abord soi-même et à aimer l'autre, à aimer son prochain. Oui, je pense que c'est quelque chose en nous, quelque chose de notre ADN et c'est quelque chose qui nous donne la paix, la joie. C'est notre appel profond.
Ça peut être compliqué parfois aussi l'amour.
Ah bah oui. C'est compliqué, mais c'est là aussi où justement on sent avec ses faiblesses, avec nos failles, avec nos difficultés, la nécessité de recevoir aussi l'amour de quelqu'un de plus grand que nous pour pouvoir le partager, le donner. Mais si c'était facile, ce serait pas drôle.
Le dicton dit que l'amour dure 3 ans. Ça existe, un amour qui dure toute sa vie, c'est possible ?
Ah, je le crois. Moi, je suis toujours touché de voir des personnes, on va dire âgées, qui se promènent dans la rue et qui ont des gestes de tendresse, qui vont se tenir la main, qui ont... Donc on a beaucoup de témoins autour de nous, dans notre monde, qui témoignent d'un amour qui dure. Et moi, je crois que, ouais, je crois que c'est possible. Et plus que c'est possible, je crois qu'il faut le vouloir, et il faut le chercher, il faut le désirer. Et d'où l'intérêt de prendre du temps pour son couple, avec ou sans mouvement, avec ou sans laine. Mais voilà, vraiment d'avoir ce désir et de croire que c'est possible, bien qu'aujourd'hui, on peut avoir... tendance à penser que, bah voilà, de toute façon, si ça va pas bien, c'est que ça doit pas aller. Moi, je crois qu'il faut refuser une certaine forme de fatalité et puis prendre au sérieux cette alliance d'amour que Dieu a pour son peuple et que je peux avoir pour mon conjoint, pour mon épouse.
Vous qui êtes responsable du mouvement Canap, d'après ce que vous voyez, comment les nouvelles générations, vous pouvez croiser dans les préparations au mariage par exemple, voient l'amour, quelles sont les questions, les problématiques qui se posent aujourd'hui ?
En vous écoutant poser la question, moi je me réjouis de voir que tout à l'heure on parlait des 4 piliers du mariage et une notion comme la fidélité, c'est quelque chose qui aujourd'hui, quand vous interrogez les jeunes, c'est quelque chose, c'est une donnée, une valeur qui est universelle et qui est encore partagée. Je veux dire, nous quand on rencontre des jeunes, ils ont envie de construire quelque chose de solide et ils ont envie que ça dure. Et moi, ça me donne beaucoup de joie de voir que cette idée de construire quelque chose pour la vie, ben, c'est intemporel et ça passe pas. Et les jeunes qu'on rencontre aujourd'hui, ils ont toujours ce désir-là. Et ça, ça me donne vraiment de la joie.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué quand même, plus les années passent ? Est-ce que des questions changent ?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui changent parce que notre monde, il évolue et parce que voilà, on est dans une culture aujourd'hui, peut-être, c'est peut-être un petit peu vieux déjà de dire, une culture du zapping, une culture de la consommation. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu à accompagner les jeunes, à les aider, à éclairer leur, à les former, à éclairer leur conscience, notamment dans le rapport à l'autre. On intervient souvent sur des questions liées à la tendresse, à la sexualité, dans la question de l'intimité, dans la question du rapport à l'autre. Comment je considère l'autre, non pas comme un objet de plaisir, mais plutôt comme un vrai sujet, comme quelqu'un à qui je vais me donner, comme quelqu'un à qui je vais me donner avant de vouloir prendre cet autre pour moi. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est nouveau, parce que je n'ai pas beaucoup de recul, mais c'est quelque chose de très présent. Le rapport à l'autre, le rapport à la différence, notamment dans ce domaine très sensible et très précieux qui est l'intimité conjugale. Et c'est vraiment un lieu où on doit... accompagner les jeunes couples pour les aider à construire quelque chose de solide dans ce domaine-là.
On parle beaucoup de couple depuis tout à l'heure. Est-ce que l'amour peut exister en dehors du couple ?
Oui, évidemment. Moi qui suis père de 4 enfants, je pense spontanément à l'amour entre les enfants, même si fondamentalement l'amour entre 2 époux est différent, mais il y a quelque chose qui est lié, il y a quelque chose qui se reçoit. Je pense que tout amour prend sa source dans l'amour de Dieu. Mais cet amour humain, il peut prendre différentes forces, que ce soit un amour d'amitié, que ce soit un amour filial, que ce soit un amour d'homme et de femme, de marié. Mais oui, effectivement, l'amour, il peut se décliner de différentes manières.
Quelles sont vos différentes actions, vous, en tant que Cana ? On en a parlé un petit peu, du coup, on a eu l'occasion d'en entendre 2-3 mots tout au long de cet entretien, mais... Quelles sont vos différentes actions, auprès de quel public vous intervenez ?
Nous aujourd'hui, Cana, donc une mission qui existe depuis 40 ans, on s'adresse à tous les couples, des couples mariés ou non, des couples chrétiens ou non, mais des couples qui ont envie tout simplement de prendre du temps pour eux, pour leur couple, que ce soit à l'occasion d'un week-end ou à l'occasion d'une semaine. Et je crois que ce qui est fondamental, notamment dans le cadre d'une semaine Cana, qui est un peu, si j'ose dire, le produit phare de Cana, la semaine Cana, ce qui est important pour nous, c'est de faire comprendre qu'au couple que l'on accueille, qu'en fait, Jésus peut sauver le couple, en fait, et Jésus peut sauver leur couple. J'ai envie de dire, souvent les couples se disent, bah tiens, là où on sent qu'il commence à y avoir un peu des difficultés, il y a de l'eau dans le gaz entre nous et donc on a envie de prendre du temps à ce moment-là. Moi j'ai envie de dire, il ne faut pas attendre qu'il y ait des difficultés qui pointent dans un couple pour prendre du temps. En fait, quand on a vécu une semaine Cana avec mon épouse, c'était il y a 5 ans. Nous, on était un couple qui allait plutôt bien, on n'avait pas de problème majeur. Mais on s'est rendu compte à l'occasion de cette semaine qu'on pouvait aller encore mieux, en fait. On s'est rendu compte que l'amour que l'on avait l'un pour l'autre, il pouvait être encore plus grand si on invitait encore plus Jésus au sein de notre couple et si on lui laissait davantage de place. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose qui est assez infini, de voir à quel point le Seigneur peut vraiment faire alliance avec nous et à quel point il peut nous emmener plus loin que ce qu'on peut imaginer. Je crois vraiment que le Seigneur, il a un projet d'amour pour les couples et que ce projet d'amour, il est bien plus grand que ce que mon cerveau humain peut imaginer. Ça peut être un peu flippant, mais en même temps, c'est une grâce extraordinaire à accueillir que d'accueillir l'amour de Dieu pour notre couple.
Par quoi ça passe ? Concrètement, ça veut dire quoi, accueillir Jésus plus dans un couple ?
Accueillir Jésus dans un couple, waouh ! Accueillir Jésus dans un couple, c'est peut-être reconnaître que, comme je le disais tout à l'heure, reconnaître que je ne peux pas me suffire à moi-même, reconnaître que je ne vais pas pouvoir, en l'occurrence moi, Damien, envers toi, Isabelle, je ne vais pas pouvoir t'aimer parfaitement comme je le voudrais, parce que j'ai mes limites, parce que j'ai mes failles, parce que j'ai mon histoire personnelle, mon histoire blessée. Accueillir que je suis un pauvre, en fait. Que je suis un pauvre devant un autre pauvre, mais qu'ensemble et avec l'aide de Dieu, on va pouvoir aller plus loin.
En cette semaine de l'amour, là qu'on fête la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux couples, aux pas couples non plus, à ceux qui croient plus peut-être aussi en l'amour ?
Moi j'ai envie de dire, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, parce que je crois vraiment que le couple c'est vraiment le cœur en fait. C'est vraiment le premier engagement. Moi, je rencontre parfois des jeunes qui se disent « Bon, bah déjà, on va soigner notre carrière ou soigner notre job et puis on va acheter une maison, puis après, peut-être qu'on se mariera. » Alors, c'est chouette de raisonner et de laisser de la place au mariage, mais moi, j'ai envie de dire mais pensez peut-être d'abord à ce qui est le plus important, quoi. Voyez ce à quoi vous tenez et ce qui vous fait tenir, et je crois vraiment que cette vie de couple, c'est quelque chose qui est vraiment le ciment. Quand on parle à des parents qui parfois sont un petit peu dans des questions par rapport à leurs enfants, moi j'aime bien cette image d'un atome avec un noyau et des électrons qui gravitent autour. Et pour moi, le noyau c'est vraiment le couple avec les enfants qui gravitent autour. Alors il y a un lien bien sûr entre ces électrons et ce noyau, mais je crois vraiment que le cœur c'est la vie de couple, quoi. Donc moi j'ai envie d'inviter tous ceux qui nous écoutent à prendre du temps, et peut-être que cette semaine, à l'occasion de la Saint-Valentin, c'est l'occasion de prendre du temps pour soi, et pourquoi pas vivre une Saint-Valentin autrement que commercial, mais un beau temps en tête-à-tête, un temps de couple où on pourrait se dire je t'aime, où on pourrait se demander pardon pour des petites choses du quotidien, puis on pourrait se demander de l'aide, ben voilà, j'ai besoin de toi pour faire telle chose, ou alors j'ai envie de vivre telle chose avec toi. Enfin, prendre un bon temps de couple cette semaine, à deux, en tête-à-tête, ce serait un beau cadeau à se faire.
C'est important d'oser demander de l'aide à son conjoint ?
Mais carrément. Carrément, reconnaître les points sur lesquels je ne peux pas y arriver seul, en fait. Reconnaître que moi, homme, ben, je ne peux pas tout tenir, et j'ai besoin de toi, et toi peut-être que tu as besoin de moi. Comment je peux t'aider avec mes charismes, avec ce que je suis, avec ce que je sais faire ? Voilà, on dit souvent, seul on va vite, ensemble on va plus loin, mais je pense que ça s'applique aussi au couple. Ensemble on peut aller plus loin tous les deux.
Donc un vrai message d'espoir alors pour cette semaine.
Tout à fait, un vrai message d'espérance.
Merci beaucoup Damien Anus, on rappelle donc que vous êtes responsable du mouvement Cana, donc Cana France, mission de la communauté du Chemin Neuf. Vous retrouvez toutes les infos sur cette mission Cana sur le www.cana.org. Merci.
Merci Anaïs.